Chapitre 17. 13 en forêt. Les enfants gravaient d'un trait sur une poutre chaque jour passé dans la maison de bois près du lac au cœur de la forêt. 13 traits, 13 jours. Les 13 enfants des deux patrouilles avaient compris qu'ils passeraient aussi la veillée du sanctuaire ici. Depuis une semaine, le temps s'était radouci. Il gelait encore le matin et la température tombait sous le zéro dès que le soleil se cachait le soir. Mais dans la journée, un franc soleil réchauffait les branches des arbres nus, dorait la surface du lac et faisait fondre les petites flaques de givre dans le creux des chemins. Agnelle aimait cette maison chaude, avec ce carré de pierre noire où l'on pouvait faire du feu, surmonté d'un tuyau de fer d'où s'échappait la fumée. « C'est une cheminée !» avait expliqué Solario. Ainsi, il pouvait dormir chaque nuit au chaud dans cette maison de bois. « Un chalet !» avait précisé Solario. Agnelle aimait apprendre de nouveaux mots. Les 5 autres enfants du tipi aussi. Ils avaient mis plusieurs jours pour faire confiance aux 3 filles et aux 4 garçons du château, pour se découvrir et abandonner une grande partie de leur méfiance. Mais désormais, dans cette forêt, la cohabitation entre eux semblait naturelle, comme si tous appartenaient à la même tribu. Comment imaginer que dans la ville, ces mêmes enfants n'auraient pas osé se parler, ni seulement s'approcher? Était-ce, se demandait Agnelle, la nécessité de survivre ensemble dans cet environnement hostile qui les unissait? Les enfants du tipi apportaient à ceux du château leur connaissance de chaque détail de la nature, au milieu de laquelle ils vivaient depuis leur naissance. Gulo-Gulo savait poser des pièges pour attraper des lapins ou des lièvres, les faire cuire et les manger. Pépin était habile pour grimper aux arbres et les guider. Suzy savait repérer parmi les branches et troncs tombés ce qui brûlerait le mieux sans exploser. De leur côté, les enfants du château apportaient à ceux du tipi leurs connaissances théoriques, c'est-à-dire généralement des choses que les enfants du tipi avaient déjà comprises, mais sur lesquelles ceux du château mettaient des mots. Par exemple, les bûches dangereuses étaient des pins ou des châtaigniers et explosaient à cause de la silice, une sorte de poussière contenue dans la terre dont ces arbres se nourrissaient. Les meilleurs troncs à brûler étaient ceux des chênes, à cause de leur meilleur indice calorifique, c'est-à-dire les bois les plus durs, que la pluie parvenait moins à mouiller. Les seuls animaux que l'on pouvait piéger étaient ceux qui n'hibernaient pas. Ce seul mot, « hiberner », expliquait pourquoi certains animaux disparaissaient pendant de longs mois. Agnelle apprenait aux enfants du château à reconnaître le chant des oiseaux, leur ramage, précisait Solario, les plumes qu'ils laissaient sur le bord du lac, la mue, ajoutait Solario. Il ouvrait le ventre des oiseaux morts dans l'espoir de découvrir ce fameux poison, puisque les oiseaux conservaient intact dans une poche tout ce qu'ils avaient mangé. « Le jabot !» expliquait Solario. Agnelle avait beau adorer découvrir de nouveaux mots, à force, Solario commençait un peu à le fatiguer. Il avait l'impression que Solario s'était fixé comme mission de lui en apprendre au moins une centaine en 2 semaines. Les 2 patrouilles quadrillaient méthodiquement la forêt, chaque jour, puis rentraient au chalet. Dans la journée, ils ramassaient les animaux morts. Le soir, ils les étudiaient. Braza, un des savants du château, disposait d'une carte de la forêt qui fascinait ceux du tipi. Jour après jour, il coloriait tous les endroits visités. « C'est la technique des explorateurs », avait précisé Braza. Installer un camp de base et rayonner autour. Dès que le temps serait meilleur, leur refuge près du lac permettrait de s'enfoncer plus profondément encore dans la forêt. Le soir, tous traînaient tard devant le feu, à raconter des histoires, vraies ou non. Les enfants du tipi avaient beaucoup de mal à croire celles du château, alors qu'à l'inverse, Solario et ses amis écoutaient toujours attentivement les récits du tipi, se contentant de donner des noms bizarres à chaque chose. « Le Louvre et la Tour Eiffel ». La Seine et Paris, l'été et l'hiver, les solstices et les équinoxes. La seule chose vivante qui ne portait pas de nom nouveau savant était le Lupo Nero. Ceux du château n'en avaient jamais entendu parler. Le Lupo Nero continuait donc de s'appeler le Lupo Nero. Les élèves du château n'avaient aucune explication scientifique à fournir, à part de prédire qu'avec le froid et le manque de nourriture, Les loups oseraient petit à petit quitter la forêt, s'approcher de la ville pour se nourrir. Qu'il fallait se méfier quand on entendait leurs cris. Leurs hurlements, précisait Solario. Cris ou hurlements, les enfants, qu'ils soient du tipi ou du château, tremblaient de la même peur et se rapprochaient plus encore, serrés les uns contre les autres près du grand feu. Ce matin-là, Agnel, Gulo-Gulo, Pépin et Solario n'étaient pas allés loin. Ils s'étaient contentés de remonter le lac supérieur, de dépasser la cascade pour parvenir au lac inférieur, là où il se transformait en une petite rivière à cause de pierres posées en travers. « Un barrage !» allait préciser Solario avant qu'Agnel lui fasse signe de se taire. Il montra à Solario un endroit précis du lac. L'eau y moussait étrangement, et à la surface de l'eau flottait une accumulation anormale d'insectes noyés, des mouches, des scarabées et surtout des araignées. « Heureusement, » fit Agnel en trempant sa main dans l'eau glacée, « on ne mange pas d'araignées. » « Non !» contredit Solario. « C'est le pire qui puisse arriver si les insectes et les mouches sont touchés. » Agnel, Gulo et Pépin le regardèrent sans comprendre. « À cause de la chaîne alimentaire, » expliqua Solario. « Les oiseaux mangent les insectes. Si les insectes sont empoisonnés, les oiseaux le seront aussi. Puis, à leur tour, les carnassiers, tous ceux qui mangent les oiseaux, les chiens, les renards, les loups. Puis vous, qui mangez les carnassiers. » « Encore un mot nouveau, » nota Agnel dans sa tête. « Carnassier, c'était le 97e depuis le début de leur rencontre. » « On ne devra manger que de l'herbe et des fruits comme vous ?» demanda Gulo-Gulo, soudain très inquiet. « Si les insectes sont touchés, » expliqua avec sérieux Solario, « c'est que l'eau aussi est empoisonnée et qu'alors les racines qui poussent dans cette eau le sont aussi. Les arbres et leurs fruits que mangeront les oiseaux vont à leur tour pourrir et tous les insectes nécrophages, 98e mot nouveau, conta Agnel, le seront aussi. Toute la chaîne sera touchée, du plus haut jusqu'au plus bas. » Agnel observa encore les araignées qui flottaient sur l'eau. Il comprenait, c'était plus grave si le mal venait par le bas. Au loin, on entendait des hurlements de loups. « Quand les loups seront touchés, » fit Solario, « et suivant sur l'échelle alimentaire, ce sera nous. » Une jolie façon de trouver les hurlements des loups rassurants, pensa Agnel. Tant qu'ils hurlaient, c'est qu'ils vivaient.
« C'est le loup Ponero !» cria soudain Pépin. « Il est à la fois humain et loup. C'est lui qui empoisonne tout. C'est lui qu'il faut trouver !»«
Je ne crois pas, » fit doucement Solario.
« Je ne crois pas que le loup Ponero existe !»
s'étonna Pépin. « Je ne sais pas, » précisa Solario, « mais s'il existe, il est lui aussi un animal sauvage qui vit avec la nature, en symbiose, 99, ou si vous préférez, en osmose et de sang. S'il existe, il ne peut pas être l'empoisonneur. Il fait partie de cette chaîne alimentaire, lui aussi. »